ça pousse la réflexion encore plus loin. Et là, ça me rappelle des beaux souvenirs. Et ça me démontre qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Parce que dans ma lecture, dans ma recherche de Marc chapitre 5, le Seigneur a grandement béni. Comme à toutes les fois d'ailleurs qu'on prend le temps d'étudier les Écritures, on est vraiment béni, on apprend des choses. Tournez avec moi dans Marc chapitre 5, à partir du verset 21, c'est les versets qu'on va regarder ce matin. Le titre du message ce matin est le suivant. Au revoir, désespoir. Non, adieu, le désespoir. Une grosse différence entre au revoir et adieu. Au revoir, c'est que peut-être qu'on va revoir. Et on veut pas revoir le désespoir. Au revoir, le désespoir, non. Adieu, mon désespoir. Et ce matin, on va regarder l'histoire de deux personnages qui sont placés dans une situation de désespoir ultime. On peut pas être plus désespéré, en tout cas, je croirais pas, plus désespéré que les deux personnages sur lesquels on va étudier ce matin. Et de voir comment le Seigneur Jésus a répondu à leur désespoir. Avec Jésus, il n'y a plus de désespoir, car il est mon sauveur, et mon sauveur est au contrôle total de toute chose qui m'entoure. Vous savez, quand on est dans la cour d'école, on veut être l'ami de la gang la plus forte. On veut être le petit frère du plus grand bonhomme dans la cour d'école parce qu'on est nerveux, parce qu'on a peur. Et on veut être protégé. Mais mon ami à moi, et celui que je veux vous présenter ce matin, là, il est au contrôle, pas juste un petit peu, il est au contrôle à 100% de tout ce qui se passe sur toute la terre à chaque seconde. Moi, c'est de son bord que je veux être. Quelqu'un comme ça, je veux être son ami. Je voudrais être sûr de ne pas le contrarier. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Jésus, il n'a pas un cœur dur. Il est facile à approcher. C'est ce qu'il désire. Que ce soit les dangers naturels, que ce soit les dangers invisibles, comme vous avez vu la semaine passée, comment est-ce que le Seigneur Jésus est au contrôle de la nature, est au contrôle du monde invisible et de tout le monde démoniaque. Ce matin, nous allons voir comment est-ce que Jésus est en contrôle de la maladie, de la mort, mais aussi de la honte. Et je suis convaincu qu'il y a des gens ici ce matin qui sont honteux pour quelque chose. Il y a des choses que vous cachez et vous faites bien de les cacher. Mais le Seigneur Jésus veut vous rencontrer. Le Seigneur Jésus veut enlever votre honte ce matin. Et on va regarder ça ensemble. Mon objectif ce matin, c'est que vous soyez tellement impressionnés par Jésus que vous choisissiez de lui faire confiance à lui et lui seul pour tous vos besoins. Que le Seigneur Jésus puisse tellement vous impressionner par ses actions dans cette histoire qu'on va lire ensemble, que vous choisissiez de tomber à genoux devant lui et de lui dire, c'est beau, j'ai compris, c'est toi qui contrôles ma vie maintenant. J'aimerais vous encourager, si vous le faites, à laisser tomber Saint-Jude. Le saint des causes désespérées. Moi, je connais quelqu'un qui est pas mal meilleur que Saint-Jude. J'aimerais vous laisser réfléchir sur votre sentiment devant les causes désespérées. On pourrait penser à la panique, à l'angoisse, à la peur. On va laisser tomber Saint-Jude, mais on peut laisser aussi tomber ces choses-là quand on connaît le Seigneur Jésus personnellement. On peut avoir différentes réactions devant le désespoir, devant des situations auxquelles on n'a aucune réponse. On peut aller appeler notre banquier pour savoir combien d'argent qu'on a en banque, qu'est-ce qu'on est capable d'emprunter pour être capable de se liberder. Ou on peut se confier dans des parents, dans des amis, pour éviter la honte. Eh bien, chacune de ces situations-là, chacune de ces personnes-là, n'a pas la clé de votre désespoir et n'a pas la solution pour votre honte. Et tant aussi longtemps que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus ou que vous ne choisissez pas de lui confier ce désespoir, vous allez rester pris avec. Il y a un débat présentement dans la société concernant le désespoir, concernant de mourir avec dignité. Et il y a des situations tellement désespérées dans la vie qu'on est en train de réfléchir en société si on va permettre à notre système médical de tuer des gens, selon leur volonté, bien entendu. Et juste, si ça s'arrête là, ça serait beau. Selon leur volonté, quand ils sont dans le désespoir de ne pas mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, c'est de mourir avec Jésus. Mourir dans la dignité, c'est de mourir avec Jésus. Il n'y en a pas de situation désespérée avec Jésus. Il n'y en a pas de maladie honteuse avec Jésus. Il n'y a pas de situation où est-ce qu'on devrait se cacher devant Jésus. Il n'y a pas de souffrance trop forte ou trop terrible que Jésus ne puisse soulager, que Jésus ne puisse agir dans ma vie pour changer la situation. J'ai un petit neveu de 4 ans. Il est diabétique. Il doit se piquer régulièrement, donc 4 à 5 fois par jour pour s'injecter de l'insuline. Puis en plus, c'est des prises de sang au bout du doigt à toutes les temps d'heure pour vérifier son sang. Et ça, c'est pas plaisant, ça le dérange. Ça me dérangerait moi aussi, hein. Il est à l'école du dimanche, puis il entend ces histoires-là. Et parallèlement à ça, mes parents ont adopté un petit gars aveugle. Et mes parents, c'est les grands-parents de ce petit neveu diabétique-là. Donc, mon petit neveu va voir ma maman, puis lui dit, « Hey, grand-maman, Joseph, là, au ciel, là, il va voir. » Il y a 4 ans. Et il avait appliqué dans sa vie le Seigneur Jésus qui allait, peut-être pas tout de suite, mais un jour régler son désespoir. Et il avait fait le lien avec son oncle dans le fond, mais qui est plus jeune que lui, qui était aveugle, et que lui aussi, pour lui, aveugle, c'est une situation désespérée. Et il avait déjà dans son cœur d'enfant appliqué le Seigneur Jésus comme étant la solution à ce petit garçon aveugle-là. Wow! Amen! Amen! Est-ce que mon petit-neveu est encore diabétique? Oui. Mais il a compris quelque chose de merveilleux. Et je ne suis pas en train de vous dire que quand Jésus enlève le désespoir, il enlève la cause du désespoir. Mais il peut régler le problème du désespoir sans en enlever la cause. Ça, c'est vraiment particulier. Pour vous y convaincre, j'aimerais que nous continuions à regarder les 4 miracles dans Marc. Joël nous a présenté les 2 premiers, il y a 2 semaines, et cette semaine, ce matin, nous allons regarder les 2 suivants. Mais j'aimerais qu'on retourne en arrière dans Marc, et qu'on fasse un petit bond, parce que, vous savez, il y a une raison pour laquelle les choses ont été écrites, dans l'ordre qu'elles sont écrites, Et afin de bien comprendre le texte ce matin, j'aimerais vous rappeler Marc, le chapitre 2, le verset 28. Où est-ce que Jésus, d'une façon publique et volontaire, affirme qu'il est le maître du sabbat? Cette affirmation-là reste à prouver quand il le dit. Parce que le sabbat fait partie de la loi de Dieu. Et si tu te fais maître du sabbat, tu te fais maître de la loi de Dieu, et la seule personne qui peut être maître de la loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que, encore une fois, ce matin dans l'histoire qu'on va voir, Jésus, d'une façon directe, se fait maître de la loi de Dieu. Parce qu'il y avait une loi qui régissait le comportement de la dame dans l'histoire qu'on va lire. Il y avait une loi qui régissait le comportement de la dame. Et le Seigneur Jésus va à l'encontre de cette loi, de un, et en plus guérit cette dame. Donc il est en train de continuer de démontrer par son attitude, par son agissement, que non seulement il est capable de calmer des tempêtes, de guérir des démoniaques, de guérir des malades, mais qu'il a une autorité légale concernant la volonté de Dieu. Il fait partie de la personne de Dieu et il y a un mot à dire en ce qui concerne la loi divine. Oupelaï! C'est pas n'importe qui, ça, là. C'est pas n'importe qui. Le désespoir, la saveur du désespoir. Avez-vous déjà goûté le désespoir? Est-ce que vous vous rappelez comment ça goûte mauvais? Mais si on compare la saveur du désespoir avec sa valeur, c'est tout autre chose. Combien souvent est-ce que le Seigneur Jésus a permis que dans votre vie et que dans la mienne, il y ait des moments de désespoir? Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a permis que je puisse me mettre à genoux et me mettre à ma place. Et il n'y a pas une plus belle position. Il n'y a pas une meilleure place à être pour un être humain qu'à sa place devant Dieu. Et le désespoir nous met dans des situations où est-ce que même des hommes arrogants qui se moquent de Dieu, à un certain moment donné, dans des situations de désespoir, vont se tourner vers Dieu pour dire « Au secours !» Le désespoir nous pousse vers Dieu. Même si ça goûte mauvais, le désespoir a une très, très grande valeur. Mais avant d'aller plus loin, on va lire cette fameuse histoire. À partir du verset 21. Dans la barque, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, et vous vous rappelez, il était dans la Décapole, il a rencontré cet homme démoniaque dans le cimetière, et là il revient. Où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'avait aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Et j'étais enfant, puis ça me faisait rire, ça. Je m'en rappelle. Mais voyons donc, qui a touché ses vêtements? Il marche dans une foule! Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? » C'est aussi, il trouve ça drôle. Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort! » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère et l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi, ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose, et il dit, « Qu'on donne à manger à la jeune fille. » Merci Seigneur Jésus pour ce récit. Merci pour le temps que tu as pris avec cette femme, malgré le fait qu'il y avait une urgence santé. Merci que tu l'as libérée. Merci que tu as aussi ressuscité cette jeune fille. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons te rencontrer de la même façon. Nous voulons te rencontrer comme étant celui qui est capable de nous délivrer. Et on veut apprendre à te connaître comme étant notre sauveur. Parce que combien de fois nous sommes dans des situations où on a réellement besoin d'être sauvés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi, apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Le désespoir nous force à sortir des sentiers battus pour oser faire des choses qu'on n'aurait jamais fait. Le désespoir nous pousse à sortir des sentiers battus pour que nous osions faire des choses que nous n'aurions jamais fait autrement. La plus grande chose que le désespoir peut nous pousser à faire, c'est de tomber à genoux devant Jésus et enfin accepter de le laisser agir, lui et lui seul, à sa façon à lui dans ma vie. Parce que moi, ça marche plus. Moi, là, ça fonctionne plus. Et en temps normal, là, je me tournerais pas vers Dieu. En temps normal, là, j'y ferais pas confiance. Mais Dieu m'aime assez pour permettre le désespoir dans ma vie pour que j'aie comme pas le choix de me tourner vers lui. Il y a deux sortes d'amis. Il y a des amis hypocrites, puis il y a des amis qui nous aiment assez pour nous faire mal des fois. Le Seigneur Jésus, c'est pas un ami hypocrite. Le Seigneur Jésus, c'est un ami qui nous aime assez pour nous faire mal des fois. Afin de bien apprécier ce texte, il y a deux éléments cruciaux à comprendre et à savoir. Il y a des non-dits dans le texte. Il y a deux choses bien importantes qu'il faut comprendre afin de saisir la profondeur de ce texte. La première chose qu'il faut comprendre, c'est toute la question de la culture. Quelle est la culture qui gère le comportement de cette femme? Pourquoi elle se cache? Pourquoi elle vient par en arrière? Et deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut saisir, c'est la relation, la dynamique entre la femme et Jaïrus. Il faut absolument saisir la relation entre la femme et Jaïrus pour apprécier ce texte d'une façon particulière. J'aime aller voir sur Internet des sites qui sont entretenus par des gens qui sont athées. Et ils vont prendre des textes bibliques et ils vont s'en moquer. Et la raison pour laquelle j'aime aller lire ces choses-là, c'est que en les lisant, je me dis, hein, c'est rien que ça qu'ils ont à dire contre la Bible. Ça n'a pas grand valeur. Et moi, j'étais tombé sur un site comme ça quand j'étais adolescent, puis je lisais, puis ils détruisaient la foi, puis moi j'étais, merci Seigneur, amen, ça n'a pas d'allure, ils n'ont rien à dire de bon. Et justement, ça faisait une couple d'années que j'avais pas fait ça, j'étais allé voir ce qu'ils disaient sur ce texte-là, et il y avait un homme qui se moquait du fait que Marc était un peu mêlé dans son histoire, parce que il en commence une, puis là, il est interrompu, puis il en fait un autre. Ce serait bien mieux d'une façon... d'un écrivain, là, de la syntaxe d'un texte, ça aurait été mieux, tu sais, tu racontes l'histoire de la femme, tu l'expliques comme faux, puis après ça, tu racontes l'histoire de Jaïrus, puis tu l'expliques comme faux. Ça, c'était sa critique sur le texte. Ouais. Ça fait dur. Mais en tout cas, et je me suis posé la même question. Ouais, c'est vrai, ça! Il y a pas tort pour, il doit avoir une raison, tu sais, puis il doit avoir une raison pour laquelle les deux histoires sont mises ensemble. Pourquoi ils sont mis en sandwich comme ça? Pourquoi ils sont juxtaposés une à l'autre? Alors ce matin, on va regarder cette femme qui était considérée comme impure, ce qu'elle vivait, la culture qui régissait son comportement. On va regarder Jaïrus et on va terminer avec l'intervention de Jésus. Et c'est là que ça devient vraiment beau. Le texte nous dit que cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. Et là, j'étais bien gêné quand j'ai préparé ce message-là, parce que j'ai dit, ah non! Un homme qui parle de perte de sang au féminin, un dimanche matin en plus. Et pour comprendre ce qui se passe dans le texte de Marc chapitre 5, il faut aller lire Lévitique chapitre 15, qui est toute la loi juive, donnée par Dieu, qui régit toutes les menstruations. Il dit, ouais, prêcher sur les menstruations. Ça ne me tentait pas trop. Donc, on n'ira pas lire Lévitique chapitre 15 parce qu'on manque de temps. Puis, de toute façon, ça ne me tente pas trop. Mais... j'en ai fait un petit résumé pour le bien de la cause, pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui étaient appliqués sur cette dame et ce qu'elle vivait comme désespoir. Donc, Lévitique chapitre 15 utilise un mot, et le mot est le suivant, impur. Et une femme, toute femme qui avait une perte de sang, était considérée comme impure. La même chose, il y avait des lois qui régissaient la façon dont on gérait les excréments humains. Et tout était géré en détail, en détail, en détail, en détail, en détail dans Lévitique. Il y avait des lois, comment est-ce qu'on régit un corps mort, comment est-ce qu'on régit un malade, comment est-ce qu'on... Et le mot « impur » ne veut pas nécessairement dire « t'es juste un impur ». Dans le sens que « t'es dégueulasse ». Vous comprenez, là, nous autres, on pense impur, puis on pense tout de suite quelque chose d'extrême. Le mot « impur » veut tout simplement dire, dans le contexte, « pas propre ». Et la propreté pour le peuple juif et pour Dieu était vraiment, 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 vraiment importante. Quand on voulait se présenter dans le temple devant Dieu, là, il y avait tout un rituel de purification extérieure où on se lavait tout le corps dans l'eau, etc., etc. Il fallait laver son linge, il fallait passer au travers de certains rituels pour offrir des sacrifices, pour être sûr que l'intérieur soit propre, que l'extérieur soit propre, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu sale. Et les menstruations, vous savez ce que ça fait, ça salit. Donc, Dieu voulait que les femmes soient pas en contact avec les ustensiles du temple, avec les rituels religieux pendant le temps de leur menstruation. Pour que chaque personne qui soit propre, s'approche, soit propre. Mais ça s'appliquait pas juste aux femmes. Ça s'appliquait aux hommes dans plein d'autres circonstances. Et c'était juste pour mettre de la valeur sur la propreté. Et quand on considère les autres informations que je vais vous donner ce matin, mais quand on considère ces informations-là et qu'on les compare avec ce qui était vécu à l'époque, on se rend compte qu'il y a un monde de différence. Parce que jusque dans les années 1800, en France, dans les hôpitaux, les dames qui accouchaient, il y avait un manque d'hygiène et il y avait un très, très haut pourcentage de dames qui mouraient parce que il n'y avait pas une assez bonne hygiène suite aux pertes de sang qui suivaient l'accouchement. Et il y avait un très, très haut taux de mortalité. Et à l'époque, c'était la même chose. Aujourd'hui, on a compris des choses sur les bactéries, sur les maladies, et on traite ce sujet-là différemment. Mais à l'époque, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, quand il n'y a pas de serviette sanitaire, quand il y a des limites à prendre soin, Dieu a mis des lois pour prendre soin de son peuple avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Donc, l'impureté ou l'impropreté était valide pour 7 jours après la dernière journée de menstruation, après ce quoi elle était considérée comme propre. Celui qui la touche sera impur jusqu'au lendemain. Ça veut dire que si tu es une maman dans ta maison et tu es dans tes règles, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton mari, ben ils ne peuvent pas, avant le lendemain, aller se présenter au temple pour accomplir des rituels religieux. Ce n'était pas que la maman ne pouvait pas prendre ses enfants, ce n'était pas que la maman ne pouvait pas donner des becs à son mari, mais en ce qui concerne le temple, elle était considérée comme pas propre. Celui qui touche un objet contaminé par le sang doit se laver et sera pur le lendemain. Donc, si on touchait une femme, on n'avait pas besoin de se laver, on avait juste besoin d'attendre au lendemain. Mais si on touchait au sang directement, on devait se laver et ensuite on attendait au lendemain. Un contact direct, par accident, c'est même écrit dans Lévitique 15. Eh bien là, c'était la même chose, c'était en contact direct avec le sang, il fallait que tu attendes 7 jours. Pareil comme le dernier jour de menstruation d'une femme avant de pouvoir te présenter devant Dieu. Et dernièrement, il y avait toute la question de pas de relation sexuelle. Alors imaginez-vous cette pauvre dame. Ça fait 12 ans qu'elle saigne. Et cette loi-là qui était là pour prendre soin et protéger avait été amplifiée, imaginez-vous. Avait été rendue beaucoup plus dure, beaucoup plus rigide. Et on regardait la femme pendant ses menstruations comme étant impure dans un sens péjoratif. Dans un sens de sa personne impure. Et non juste pas propre. Donc cette femme vivait une honte incroyable depuis 12 ans. D'être traitée comme une femme qui aurait une mauvaise vie parce qu'elle était malade. Comme si c'était pas assez de souffrir dans son corps et de mourir à petit feu en perdant du sang. Comme si c'était pas assez. Elle était jugée, rejetée et méprisée depuis 12 ans. C'est long comme période de désespoir, ça. C'est long comme période de désespoir. Mais excusez-moi, je me suis mêlé. En plus de souffrir physiquement, elle mourait à petit feu. Elle avait dépensé tous ses biens et ça l'allait en empirant. Et vous, comme moi, savez qu'une perte de sang, c'est mortel. On peut en mourir, c'est dangereux. Elle est dans une situation dangereuse et elle n'a pas le droit de toucher à personne. On lui interdisait tout contact avec qui que ce soit. Hey, ça commence à être lourd, ça, là. Jairus. Qui est Jairus? Le texte nous dit que Jairus est chef de synagogue. Qu'est-ce que ça fait un chef de synagogue? Un chef de synagogue, ça s'assure que les lois sont appliquées dans la synagogue. Jairus, comme chef de synagogue, avait dû, peut-être pas dans la vie de cette femme-là, mais avait dû, dans sa vie, appliquer les règles sur l'impureté menstruelle des femmes. Et étant donné qu'ils sont dans la même localité ensemble, il est très fort probable qu'ils se connaissent l'un l'autre et que Jairus faisait partie de ceux qui jugeaient cette femme. Faisait partie de ceux qui appliquaient la loi de Dieu corrompue par les hommes dans la vie de cette femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux font exactement la même chose. Les deux, à cause du désespoir, vont briser des règles culturelles pour pouvoir s'approcher de Jésus. Les deux vont briser ce qui les met en carcan pour pouvoir s'approcher de Jésus. La foi, parce que Jésus l'a regardé après, hein, il a dit « ta foi t'a sauvé ». J'aimerais vous suggérer la chose suivante. J'aimerais vous suggérer que la foi est une forme de rébellion à toute forme d'hommerie. La foi, c'est une rébellion envers l'homme, y compris soi-même, pour se tourner vers Dieu. C'est de dire tout simplement, je suis tanné de gérer ma vie moi-même. Je me rebelle contre moi-même. Je me rebelle contre les gens qui veulent gérer ma vie. Je me rebelle contre le système qui veut gérer ma vie. Je me rebelle contre leur carcan qui me retient et je vais à Dieu pour que ce soit lui qui gère ma vie. Personne d'autre. Ni moi, ni toi n'a le droit de gérer sa vie. Il faut se rebeller contre cela. Il faut dire non. Je veux que ce soit Jésus qui gère ma vie. Je veux que ce soit lui qui prenne soin de moi. Les deux font cette chose. Les deux se rebellent contre la culture, se rebellent contre la mentalité oppressive pour se tourner vers Jésus. Jésus, on cherchait à le faire mourir. Et comme chef de synagogue, c'était très, 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 très mal vu, même interdit pour lui de s'associer à Jésus. Parce qu'il devait, comme chef de synagogue, voir que dans les synagogues, la loi soit suivie à la lettre. Et Jésus proposait un avenue différent. Jairus a dû aller contre son propre enseignement, a dû piler sur sa propre orgueil pour aller voir Jésus et lui demander, « Est-ce que tu peux venir? Ma fille est en train de mourir. » Dieu est allé mettre le doigt dans le cœur de Jairus, là où ça fait le plus mal, pour le mettre à genoux. Et il est allé voir la bonne personne. Il est allé se mettre à genoux devant celui qui devait se mettre à genoux. Même si la culture, même si le contexte l'en empêchait. Mais Dieu a le sens de l'humour. Dieu a le sens de l'humour. Qu'est-ce qui est plus urgent? Non, sérieusement, là, vous êtes premier répondant sur le lieu d'un accident et vous avez une personne qui est en train de mourir puis une dame qui est en menstruation. Qui vous allez soigner en premier? Moi, j'imagine Jairus qui vient voir Jésus puis qui lui dit, « Hey, viens-t'en, ma fille est en train de mourir, Seigneur, viens. » Puis là, il est pas en arrière, il est en avant, puis c'est lui qui tâche le monde. « Laissez-moi passer, il faut que Jésus aille voir ma fille. » Ça presse! Elle est en train de mourir, on comprend-tu l'enjeu? Il a peur, lui-là. Il ne sait pas s'il va arriver à temps. S'il y aurait eu une ambulance jaune, c'est ça qui aurait conduit. Il aurait parti les sirènes. On s'en va chez nous, Jésus. Viens-t'en, je t'emmène. Hein? Seigneur Jésus, il arrête. Hey, c'est qui m'a touché? Oh, et Jairus, il devait patiner en dedans, moi, je vous le dis. Hey, ça presse! C'est quoi ça, cette histoire-là? Viens-t'en! Arrête de poser des questions de même, qui m'a touché. Justement, je suis là, puis je pousse tout le monde pour qu'il te touche, là. Viens-t'en! Et là, il se revire de bord, puis il voit la femme. Et qui a dû se sentir petit dans ses culottes, Jairus. C'est pas deux histoires séparées. C'est une histoire. Une seule histoire. Et c'est la rencontre de deux personnages qui en fait sa valeur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a choisi de se libérer du carcan humain, de se rebeller contre la culture qui la restreignait, pour aller toucher Jésus. Elle a fait la même chose que Jairus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Il y avait deux urgences ici. Il y avait l'urgence de sauver la vie d'une jeune fille et il y avait l'urgence de redonner dignité à une femme. Et Jésus a choisi que de redonner la dignité à une femme, c'était plus urgent. Entendez-moi bien, là. De donner la dignité à une femme, donc aux femmes, c'était plus important que de sauver la vie d'un enfant. Oh. Alors, messieurs, faites bien attention comment vous traitez les femmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au ciel et qui voit comment elles sont traitées et qui tient à cœur de voir est-ce qu'elles aient une dignité et qu'on leur accorde cette dignité. C'est extrêmement pertinent ce que Jésus est en train de faire ici. Ça percute, ça frappe une culture, ça frappe la mentalité dans laquelle elle se trouve. Et ça a des rebondissements jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il savait c'était qui. Parce que quelqu'un qui servirait de bord, il cherchait celle qui avait fait cela. Le Seigneur Jésus fait exprès de poser la question pour augmenter la tension du moment. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que quelqu'un m'a touché. Oui, mais tout le monde te touche, justement. Il y a une personne qui vient de me toucher. Et cette dame-là, elle requiert toute mon attention. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Hey, je comprends qu'elle était tremblante. Ça fait 12 ans qu'elle a peur. Ça fait 12 ans qu'on la maltraite. Et là, elle a une opportunité d'essayer de s'en sortir en brisant des règles qui la régissent depuis si longtemps. Pour vous, ces règles-là semblent peut-être anodines. Mais vous savez, quand on inculte une règle à quelqu'un, et pour une longue période de temps, même si cette règle-là n'est pas valable, quand on la brise, on se sent coupable. Et c'est ça le danger du légalisme. C'est qu'on contrôle les gens en leur faisant croire toutes sortes de choses, puis après ça, ils deviennent habitués à ces règles-là et ils deviennent esclaves parce qu'ils ont peur de les briser. Et cette femme-là se retrouvait exactement dans ce bain-là, dans cette situation-là. Et je suis sûr que vous avez déjà eu des moments dans votre vie où vous avez choisi de briser une règle. Et que vous vous êtes senti coupable, mais que vous saviez que c'était pas mal. C'est ce que la religion fait. Ça, là, la religion est spécialiste là-dedans. La religion met des fardeaux de règlements sur le dos des gens pour pouvoir les contrôler. Et quand on veut suivre le Seigneur Jésus, il faut dire non, j'en veux pas de cela. Maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas devenir arrogant et se battre contre tout non plus, là. Il y a un équilibre. Cette femme effrayée, effrayée avec raison, tout tremblante, tremblante avec raison. Effrayée, heureuse, elle vient d'être guérie, elle ne sait pas quoi en penser. Elle se sent coupable parce qu'elle vient de briser un règlement qu'elle n'aurait pas dû briser. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui dit? Ma fille.
Hey femme, qu'est-ce que t'as fait là?
Non, c'est pas les mots qu'il a utilisés. C'est ma fille. Tout de suite, les premiers mots qui sortent de sa bouche, ça soulage, ça libère. C'est oh, il m'en veut pas. Va en paix, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Amen. Amen. La
plus grande guérison opérée cette journée-là, c'est pas passé dans le corps d'une femme. La plus grande guérison opérée cette journée-là, c'est passé dans le cœur d'une femme. Et Dieu a su toucher son cœur. Le Seigneur Jésus a su la guérir là où il était le plus blessé. Il l'a guéri. Il l'a touché. Il a répondu à son désespoir. Jairus maintenant. Jairus voit tout ça. Il est témoin de cela. Il fallait qu'il soit témoin de cela. Il fallait qu'il soit témoin de cela pour apprécier ce que Jésus allait faire. Jésus lui devait rien. Jésus n'était pas obligé de le suivre, même s'il était chef de synagogue. Toute cette rencontre-là a remis Jairus à sa place. L'a humilié, l'a fait réfléchir sur la personne de Jésus, sur son légalisme personnel, l'a fait réfléchir sur le contexte qu'il était en train de vivre. Et laissez-moi vous dire qu'après la guérison de cette femme, ce n'était pas le même homme qu'après. Il avait été touché, bouleversé. On ne sait pas c'est quoi sa réaction, le texte ne nous le dit pas. Mais il a certainement reçu une leçon. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. À l'époque, comme si ce n'était pas assez que d'être triste, on payait des gens pour pleurer quand quelqu'un mourait. C'est la culture de cette époque-là, je pense pas qu'on ferait ça aujourd'hui. Mais là, Jésus arrive et ils ont eu le temps d'aller chercher ces gens-là pour commencer à pleurer puis à se lamenter. Et on me dit, moi je l'ai jamais entendu, mais je connais des gens qui sont allés en Israël et qui ont entendu ces dames-là. Il paraît que quand on les entend pleurer, ça fait peur parce qu'ils savent pleurer. Et que ça perce l'âme quand on les entend. Donc, on pourrait vraiment, eux, les classer comme des broyades. Alors, on arrive sur le lieu où ce que la jeune fille, elle est morte. Les gens sont en train de pleurer à vous percer l'âme. Et Jésus arrive puis dit, elle est pas morte, elle dort. On se moque de lui. « Oui, mais Jésus, si tu voulais pas te faire moquer de toi, tu avais juste à pas dire qu'elle dormait. » Il a fait exprès. Parce que pour tous ceux qui étaient dans la maison et pour tous les autres êtres humains sur cette terre, cette fille était morte. Mais il y avait une personne sur cette terre pour qui cette fille n'était pas morte. Parce qu'il avait entre ses mains le pouvoir de la vie et de la mort. Il se fait maître de la loi de Dieu. Il redonne la dignité à une femme, mais pas juste en la guérissant, mais en approuvant son geste de rébellion envers une culture et des règles. Et troisièmement, il a le pouvoir de la vie et de la mort. Oupalaï! C'est plus n'importe qui, là. C'est pas n'importe qui. Ils se moquèrent de lui. Ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est levée! Vous avez déjà vu un mort? C'est pas facile à regarder, hein? On imagine quasiment qu'il va bouger, parce que c'est pas normal qu'il bouge pas. On imagine quasiment qu'il va respirer, parce que c'est pas normal qu'il respire pas. Et on cherche un mouvement, mais il y en a pas. Mais elle se lève! Wow! Wow! incroyable. Ne dites pas au revoir à votre désespoir. Dites adieu à votre désespoir. Venez à Dieu et il répondra. Prions ensemble. Seigneur Jésus, on est ému devant ta grâce, on est ému devant ton amour, on est effrayé devant ta grande puissance, et tu nous invites à venir à toi. Merci d'avoir libéré cette femme. Merci d'avoir libéré Jairus aussi, qui était pris dans tout un contexte. Merci de leur avoir tendu la main avec amour, et tu fais la même chose pour nous ce matin. Et nous voulons répondre oui. Nous voulons nous tourner vers toi et accepter cette main tendue. Merci Seigneur Jésus. Amen.